Oui, elle avait fait une thèse terminée il y a maintenant, c'est quoi, 5 ans, qui portait sur la blessure, et en particulier autour de la campagne des affiches UDC avec les moutons, dont évidemment tout le monde se souvient. Une campagne d'ailleurs qui a inspiré de l'extrême droite à peu près de tout le continent. Et c'était à partir de cette réaction à cette campagne d'affiches que la thèse avait été soutenue donc, à l'université de Genève. Là, il nous revient d'une année à Northwestern, donc une des universités de la ville de Chicago, où elle a continué ses travaux sur la question. Disons les questions raciales, et j'utilise le terme parce que aux États-Unis ça ne pose pas de problème d'en parler. Alors en France c'est pratiquement un anathème, en Suisse c'est un petit peu entre deux, mais c'est sur les questions autour des Afro-Américains et sur la question de la race. Je rappelle toujours à mes étudiants que Cornel West, un des grands intellectuels afro-américains, avait écrit un livre juste après les émeutes de Los Angeles au début des années 90 qui s'appelle Race Matters, donc ça signifie à la fois les question autour de la race, mais la race ça compte, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qu'on peut mettre sous le tapis en disant voilà, on fait comme si ça n'existait pas, on fait pas de statistiques et miraculeusement la race disparaîtrait. Donc c'est dans ce cadre-là évidemment avec cette analyse-là américaine, disons que Noémie travaille et occupe maintenant. Comment ?
Plutôt dans
une approche européenne. Bon, ben, tu me raconteras ça. Et puis maintenant, ben, elle occupe à nouveau le poste de maître assistant à l'université de Genève, étant cette année, ça c'est le rêve de toute universitaire, délivrer des enseignements, comme ça on peut enfin un peu lire et un peu avancer sur nos recherches. C'est la lecture de texte.
Oui. C'est moi qui commence.
Noémie, tu m'as transmis deux extraits de l'auteur Audre Lorde sur la poésie, l'érotisme, le racisme et le sexisme. Ça s'appelle Sister Outsider, hein, c'est ça, le texte qu'elle a écrit. Et je vais vous lire l'extrait numéro 1, tiré de Laisser les yeux dans les yeux, femme noire, haine et colère. La ligne de métro AA, direction Harlem. Je m'agrippe à la manche de ma mère. Ses bras sont chargés de sacs, lourds des courses de Noël. L'odeur humide des vêtements d'hiver, la rame tangue. Ma mère aperçoit un siège, à peu près libre. Elle y pousse mon petit corps équipé pour la neige. D'un côté, un monsieur lit un journal. De l'autre, une femme avec une toque de fourrure qui me dévisage. Sa bouche fait la grimace pendant qu'elle m'observe. Puis son regard se baisse, entraînant le mien. Sa main gantée vient pincer l'endroit où mes nouveaux pantalons de ski bleu touchent son beau manteau de fourrure. Elle tire le manteau vers elle, d'un coup sec. Je regarde. Je ne vois pas ce quelque chose d'horrible qu'elle voit sur le siège entre nous. Probablement un cafard. À son expression, ça doit être vraiment dégoûtant. Donc je tire moi aussi sur ma combinaison pour m'en écarter. Quand je lève les yeux, la dame est toujours en train de me dévisager. Narines dilatées, les yeux écarquillés. Et soudain, je réalise que rien n'est en train de ramper entre nos sièges. C'est moi qu'elle ne veut pas toucher avec son manteau. Sa fourrure me caresse le visage quand elle se lève, toute tremblante, pour aller s'accrocher à une poignée dans cette rame qui file à toute allure. En bon enfant de la ville, né et grandi à New York, je me glisse vite de côté pour faire de la place à ma mère. Pas un mot échangé. J'ai peur de dire quoi que ce soit puisque je ne sais pas ce que j'ai fait de mal. En cachette, j'examine mes pantalons des deux côtés, peut-être une saleté restée accrochée. Quelque chose vient de se passer que je ne comprends pas, mais que je n'oublierai jamais. Ses yeux, ses narines dilatées, la haine.
Un autre extrait. La bibliothécaire nous lit Tissambo, le noireau, pendant l'heure de lecture. Ses mains blanches nous montrent les images de ce petit garçon avec des yeux en boutons de bottine, des grosses lèvres très rouges, plein de tresses sur la tête et un chapeau. Je me souviens que ces images me blessent. Et qu'une fois de plus, je me demande ce qui ne va pas chez moi, puisque tous les autres enfants rient, et qu'en plus, la bibliothécaire nous dit que ce petit livre a reçu un prix spécial à la grande bibliothèque municipale. Et ben alors, ça tombe par rond ? Allez, fais pas ta susceptible.
Troisième extrait, tiré de l'usage de l'érotisme, l'érotisme comme puissance. Quand nous vivons hors de nous, je veux dire par là, en fonction de directives extérieures, plutôt qu'en fonction de notre connaissance et de nos besoins intérieurs, quand nous vivons séparés de ces guides érotiques qui sont en nous, nos vies sont limitées par des formes extérieures et étrangères. Et nous nous conformons aux impératifs d'une structure qui n'est pas fondée sur les besoins humains et encore moins sur ceux des individus. Mais quand nous commençons à vivre du dedans vers l'extérieur, en contact avec la puissance de cet érotisme en nous, et en laissant cette puissance nourrir et illuminer nos actions sur le monde qui nous entoure, c'est alors que nous commençons à être responsables, au sens le plus profond du terme. Nos actions contre l'oppression font partie intégrante de nous-mêmes, motivées et générées de l'intérieur.
Merci Vincent pour cette lecture. Merci beaucoup à la Marmite pour cette invitation. Merci pour ça. Je suis très contente que Catherine Prelot et Liane Schneider soient présentes parce que c'est lui qui m'avait invité au départ. J'ai passé un moment très enrichissant tout à l'heure avec l'association Palabre et la réflexion qu'on a eue ensemble sur l'étrange. Je voulais aussi vous remercier pour ça. Alors, je vais parler des lois inaudibles et oubliées en démocratie. Revenir sur ces premiers extraits qu'on a entendus. Donc, ces deux premiers extraits relatent le vécu d'Audrey Lorde dans les années 60 aux États-Unis. Dans les scènes qu'elle relate, il est question de corps en relation dans divers espaces publics. Il est aussi question de regards et d'émotions qui sont projetés depuis et sur ces corps. Donc le corps de la dame au manteau de fourrure qui ne veut pas toucher celui d'Audrey Lorde, jeune enfant, sur le regard haineux et dégoûté de cette dame, un regard qui va provoquer chez Audrey Lorde un regard confus et suspicieux sur son propre corps. Le corps de Sambo, le petit noir, dans le livre illustré, dont la représentation raciste et caricaturale provoque le rire chez les enfants qui font corps autour de la bibliothécaire, et le corps blessé d'Audrey Lorde qui soudain se met à part ou est à part. Ces scènes de rencontre entre corps, yeux et émotions ont pour effet de provoquer la confusion chez Audrey Lorde. Elle écrit, elle dit « Quelque chose vient de se passer que je ne comprends pas. » Elle dit aussi « Bah alors, ça, elle se dit à elle-même, mais ça tourne pas rond. » Lorde relate ainsi une difficulté à avoir un simple dialogue avec elle-même, à entendre sa propre voix. Alors, Audre Lorde fait partie des traditions de la pensée féministe noire, donc la tradition de pensée féministe noire, qui est une tradition dans laquelle je m'inscris et sans laquelle je ne pourrais pas vivre et sans laquelle je ne pourrais pas formuler une réflexion critique sur la démocratie contemporaine occidentale. La pensée féministe noire forme une constellation d'interventions intellectuelles, politiques, artistiques, qui sont portées principalement par des femmes noires. Lorsque j'utilise le terme de femme, je me réfère à toute personne qui s'identifie en tant que femme, quel que soit son genre assigné à la naissance. Lorsque j'utilise le terme noir, je me réfère aux personnes dont les corps et les histoires sont lus en tant que noirs, car attachés à une différenciation et à une infériorisation raciale inventée et consolidée dans le cadre de la traite négrière, de l'esclavage et du colonialisme. La pensée féministe noire est planétaire, car elle est en résonance avec l'étendue de la diaspora noire. Alors oui, je travaille avec les auteurs africaines-américaines, comme Audre Lorde, mais je m'intéresse aussi aux écrits et aux interventions de féministes noires dans d'autres espaces, en Suisse, en Allemagne, en France, dans les Caraïbes. Et une chose que je pense qui est importante de soulever par rapport aux pensées féministes noires, c'est que c'est une pensée qui est en circulation, donc Audre Lorde, est rattachée aux États-Unis, mais elle a vécu à Berlin, elle est passée par Genève, elle a circulé en Suisse. Donc c'est une pensée qui est toujours en mouvement et en circulation, comme la diaspora noire. Donc le féminisme noir, c'est une pensée critique du pouvoir qui, depuis plus d'un siècle, formule des analyses, des notions et des récits pour faire sens de la manière dont le racisme, le sexisme, l'exploitation capitaliste interagissent et impactent nos vies. C'est aussi une pensée de la libération qui nous offre des outils pour résister et pour imaginer des futurs plus justes. C'est ainsi, selon moi, une tradition de pensée qui est incontournable pour identifier les limites actuelles de notre vie démocratique. Et plus précisément, dans l'exposé de ce soir, j'aimerais montrer comment le féminisme noir me permet d'aborder la démocratie en tant que problème de voix et de corps en relation. Donc des voix et des corps en relation. Et ces relations résonnent avec la longue histoire du colonialisme, de l'esclavage, du capitalisme et avec l'héritage de ces histoires dans nos sociétés néolibérales. Alors pour dérouler cet argument, donc penser la démocratie comme un problème de voix et de corps, je vous propose dans un premier temps que l'on s'arrête sur deux images pour penser la scène démocratique contemporaine. Alors la première image, c'était pour faire plaisir à Antoine, est issue du film « 12 Angry Men », 12 hommes en colère, la traduction en français, donc un film des années 50. On y voit un groupe homogène, très homogène, hein, d'hommes blancs, tous en costume, en train de voter, en train de donner un verdict. Donc c'est une scène qui symbolise à mes yeux une scène démocratique datée. Datée car elle exclut la plupart des membres de la société dans laquelle a lieu cette scène, à savoir les femmes, les minorités ethno-raciales, les populations autochtones, et je passe encore d'autres groupes qui sont marqués par des différences sociales. La scène démocratique contemporaine s'exemplifie mieux par cette image, une autre image où on voit une femme afrodescendante qui s'exprime dans un groupe plus diversifié, donc un groupe plus mixte. Donc on voit que dans cette scène, les individus et les groupes minorisés ont été progressivement inclus. Enfin, cette scène montre comment les groupes minorisés ont été progressivement inclus au sein des arènes démocratiques, notamment par l'accès au suffrage universel, mais aussi par des instruments tels que les quotas. Cependant, de nombreuses études en sciences sociales montrent que la voix des groupes et des individus minorisés continue de compter moins. En somme, cette scène que je vous montre ici, elle continue de poser un problème démocratique et un problème que je vous propose de désigner par l'expression d'inclusion insoutenable. Arrêtons-nous sur cette image. Quel serait le scénario, un scénario désirable, démocratique, pour la femme qui s'exprime dans ce groupe, dans cette collectivité? Elle parle, le groupe l'écoute, et donc l'entend. L'entend au sens profond, au sens de la comprendre. Et puisque le groupe l'entend, la comprend, il se sent le devoir de lui répondre, d'être collectivement responsable vis-à-vis de sa demande. Je parle, on m'entend, on me répond. Ce scénario résume l'horizon d'une démocratie désirable, d'une démocratie qui constitue un ensemble de voix qui s'expriment et un ensemble d'oreilles qui écoutent. Ceci menant à une réponse et à une responsabilité collective vis-à-vis de ces voix. Cependant, la littérature critique de la démocratie avec laquelle je m'engage a montré que la voix est toujours médiée, à savoir qu'il y a des processus historiques, sociaux et politiques qui viennent s'interposer entre les voix des groupes minorisés et les oreilles de leur collectivité. Ces processus viennent troubler le scénario démocratique désirable et rendent son issue insoutenable. Alors, premier scénario insoutenable possible, il se peut que cette femme parle, qu'on l'écoute, mais qu'on l'entende. On l'entende et la comprenne pas. Vraiment. Sa voix devient un peu du bruit. Ce scénario produit une forme de dépossession de la voix. Second scénario insoutenable, la femme parle, on l'écoute, on l'entend, mais personne ne ressent le besoin de lui répondre, d'être responsable face à elle. Donc ce scénario renvoie à un déficit de responsabilité. Et là, je joue un peu sur le mot de réponse en anglais, response, et le mot français de responsabilité. Répondre de se sentir responsable face à quelqu'un. Donc, en m'appuyant sur le corpus noir, un féministe noir, j'aimerais préciser, en fait, la trame de ces scénarios insoutenables. J'aimerais montrer comment ces scénarios qui mènent à l'évaporation des voix impliquent toujours aussi des corps qui sont différenciés et mis au travail au croisement du genre et de la race. Et je vais élaborer cette trame en deux étapes. Premièrement, en mobilisant des récits d'expériences vécues, et deuxièmement, en revenant sur l'histoire du colonialisme et de l'esclavage. Donc la première étape, les récits d'expériences vécues, ce sont des histoires d'affiches, des affiches qui ont été exposées dans les espaces publics suisses et européens, et qui ont affecté la voix et le corps des personnes noires. Alors la première histoire est un récit condensé que j'ai élaboré à partir des expériences vécues dans mon cercle proche de femmes afrodescendantes qui travaillent dans les universités européennes, et j'y ai inclus mes propres expériences. J'ai aussi utilisé un livre récemment édité par Akugo Emejulu et Francesca Sobande, intitulé « To exist is to resist black feminism in Europe ». Donc un des éléments qui revient systématiquement dans ces récits, c'est l'expérience de la mise à l'affiche. Donc j'ai condensé ces expériences sous la forme de l'histoire, sous la forme d'une histoire à la première personne, l'histoire de V, une histoire qui se déroule en trois épisodes. Alors premier épisode, V est étudiante, elle est castée pour participer à une campagne de promotion des services culturels et sportifs de son université. Elle dit « Par mon image sur les affiches, l'université signale qu'elle se veut inclusive. Je suis la seule personne non blanche de la campagne d'affichage. Durant des années, au début de chaque semestre, lorsque j'entre dans le bâtiment principal de l'université, je croise une énorme photo de moi qui sourit pour vanter les services extraordinaires de l'université. Durant des années, les gens me reconnaissent. « C'est toi la fille sur l'affiche ?» ils me disent. Deuxième épisode, V occupe une position non permanente d'enseignement à l'université, ce qui est le cas de la plupart des femmes noires aujourd'hui dans les universités européennes, et est enjointe par sa direction de figurer dans le clip de promotion de la formation. V est enjointe par sa direction de figurer dans le clip de promotion de la formation donnée dans son université. Tous les autres acteurs et actrices du clip sont des professeurs avec poste permanent. Elle ne comprend pas pourquoi sa participation est demandée. Le directeur a insisté pour que ce soit moi. Je finis par être extrêmement présente dans ce clip, hyper visible. Il commence et finit avec moi, souriante, expliquant à quel point mon institution est extraordinaire. Dans un dernier épisode, V est exposée à une série d'événements racistes et sexistes qui affectent sa personne et son travail. Elle ne rencontre pas de réel soutien de sa hiérarchie lorsqu'elle l'interpelle à ce sujet. Et à ce moment-là, elle réalise qu'est-ce que ça veut dire être mis à l'affiche. Je réalise à ce moment à quel point mon institution est attachée à mon image, mais pas vraiment à moi. Mon institution me veut sur ses supports de promotion, mais ne me veut pas vraiment. Sois présente, mais ne sois pas vraiment toi. Ne parle pas en ton nom, pour toi-même. Donc ça, c'est la première histoire, l'histoire de V, qui condense donc un ensemble d'expériences vécues par les femmes noires dans les universités en Europe. La deuxième histoire d'affiche, dont Antoine a déjà parlé, Donc c'est une histoire qui émane des recherches que j'ai faites depuis un moment autour de cette controverse de l'affiche des moutons qui a eu lieu en Suisse en 2007. Je rappelle quand même cette controverse parce que pas tout le monde était présent. Le parti à cette époque, le parti populiste d'extrême droite de l'Union démocratique du centre, avait produit une affiche que je ne vais pas montrer, qui mettait en scène des moutons blancs expulsant un mouton noir d'un territoire qui était symbolisé par le drapeau suisse sous le slogan « Pour plus de sécurité ». Cette affiche avait déclenché un des plus importants débats publics en Suisse autour de la question de l'identité collective, de la différence et aussi du racisme. Et c'est dans ce contexte que je vous relate l'histoire d'un groupe, d'une performance publique, d'un groupe de candidats au Conseil national qui, en septembre 2007, se sont réunis sous le nom collectif de candidats multipartis d'ascendance africaine et donnèrent une conférence de presse. Et avant de donner cette conférence de presse, ils ont posé solennellement devant l'enceinte du Conseil national à Berne. Donc, durant leur conférence de presse, ils déclarent « Nous nous sommes rassemblés aujourd'hui, chers représentants des médias, pour vous retirer cette peur viscérale. Nous nous présentons à vous et vous allez constater que nous sommes des êtres humains de chair et de sang, dotés de points de vue et d'ambitions particulières. » Donc cette performance publique n'est qu'un épisode parmi de nombreuses autres de l'importante contestation de l'affiche des moutons qui a été portée par des individus et des groupes afrodescendants durant la controverse. Cependant, malgré un relais médiatique assez conséquent, ces voix noires n'ont reçu aucune réponse officielle des autorités quant à leur demande de positionnement contre l'affiche. Ces voix noires n'ont eu aucune portée, ni au terme de la controverse, ni jusqu'à présent. Plus d'une décennie plus tard, tout le monde se souvient de l'affiche des moutons, mais peu de personnes se rappellent des demandes qui avaient été portées à l'époque par les personnes afro-descendantes. Alors que ces dernières étaient les premières concernées par l'image et par la violence de cette image. Mais leurs voix ont été oubliées. Donc les deux histoires d'affiches que je viens de vous relater concernent des personnes qui sont incluses dans leur collectivité, mais quelque chose de bizarre se passe avec leur voix. Et ce quelque chose de bizarre implique toujours aussi leur corps. Surexposé sur les affiches de son institution, le corps de V semble prendre tout l'espace de son histoire. Le statut du corps est aussi au cœur de la performance des candidats afrodescendants lorsqu'ils posent en bloc et affirment qu'ils sont bien des humains de chair et de sang. J'aimerais continuer à faire sens de ces histoires de corps et de voix en les inscrivant dans un temps long. En effet, les pensées féministes noires abordent toujours notre présent en lien avec l'histoire du colonialisme et de l'esclavage et de leur héritage. Donc je passe à la deuxième étape de mon exposé, les résonances du colonialisme et de l'esclavage. Et donc dans cette deuxième étape, j'aimerais mettre en avant deux formes d'opérations de pouvoir sexiste, raciste et capitaliste qui investirent le corps et la voix de groupes placés sous le joug de l'esclavage et de la colonisation. Alors la première forme d'opération renvoie à ce que j'ai appelé la dépossession et la spectacularisation des corps. Les travaux des féministes noires montrent comment le corps des personnes placées sous le joug de l'esclavage ou de la colonisation, ou comment leur corps ne leur appartenait pas. Comment il était maintenu en captivité, violenté, discipliné, terrorisé. Toute la force vitale de ces corps était prise dans le circuit de l'exploitation capitaliste raciste. Ainsi, les femmes noires réduites en esclavage étaient non seulement obligées de donner leur force de travail captive, mais aussi leur force de reproduction des vies qui seraient elles-mêmes captives et exploitées. La dépossession du corps allait de pair avec sa spectacularisation. Il s'agissait de montrer publiquement aux yeux de tous que ces corps-là étaient disponibles et que l'on pouvait disposer de leur vie et de leur mort. Il fallait les offrir en spectacle afin de faire diversion quant à leur déshumanisation. Donc dans le contexte suisse, l'historienne féministe noire, Jovita dos Santos Pinto, un article très important, donc cet ouvrage Terra Incognita est un des seuls ouvrages qui recense une histoire des femmes noires en Suisse. Il est en allemand. Et dans cet ouvrage, Jovita dos Santos Quinto a un essai où elle parle de ce qu'elle appelle le spectacle sexotique, où elle joue donc sur l'idée de sexualité et de exotique, donc le spectacle sexotique de l'autre. Et elle utilise cette notion pour faire sens des nombreuses expositions et des shows qui donnèrent à voir des corps construits comme autres, comme sauvages, dans le cadre de zoos, de foires, de cirques, jusqu'au milieu du XXe siècle en Suisse. Et puisqu'on est à Lausanne, il me semble intéressant de rappeler le village africain qui met en spectacle des corps noirs ou d'autres objets de curiosité dans le cadre de la foire des produits coloniaux et exotiques en 1925. Pas loin d'ici, il me semble. Donc ces dispositifs de spectacularisation ont forgé des manières de voir et de consommer les corps. Ils ont forgé un œil moderne, racialisant et sexualisant. Les descendants des colonisés, alors aujourd'hui les descendants des colonisés et des esclaves ont acquis des droits. Mais les images, les imaginaires, les modes de voir et de consommer leurs différences n'ont pas été complètement décolonisés. L'œil sexualisant et racialisant opère encore. Cet œil, ce regard, opère d'ailleurs dans le récit de V. Lorsque V est mise à l'affiche, son corps féminin et noir est mis au service de la fabrique d'une image néolibérale de la diversité. V devient un visage souriant, un corps désirable qui vend son institution. Mais sa présence réelle dans cette institution n'est pas garantie, et sa demande d'action et de protection contre le sexisme et le racisme, donc sa demande de responsabilisation, ne rencontre que peu de réponses, aucune prise de responsabilité collective. Donc les images de la diversité, en prenant le bus pour venir, j'en ai vu plein, elles peuplent les affiches, les clips publicitaires de nos institutions et de nos espaces publics. Mais depuis la perspective de celles et ceux qui vivent au quotidien avec les corps de cette diversité, ces images servent à produire l'apparence de l'inclusion, sans que celles et ceux dont les corps sont mis à l'affiche ne soient réellement inclus. Les opérations coloniales et raciales de dépossession et de spectacularisation des corps résonnent donc encore dans notre présent et participent de ces scénarios insoutenables dans nos démocraties. Mais j'aimerais compléter la trame de ces scénarios en y incluant un second ensemble d'opérations, d'opérations qui remontent à l'époque coloniale et à l'époque de l'esclavage, que je nomme contrôle et distorsion des voix. Donc, les féministes noires rappellent en effet comment les moyens d'expression et de communication des personnes qui étaient placées sous le joug de l'esclavage et de la colonisation étaient systématiquement silenciés et délégitimés. Un exemple très parlant est relaté dans l'ouvrage Plantation Memories de Grada Quilomba, qui est une essayiste portugaise et allemande, noire, qui est aussi une artiste. Dans son travail, elle rappelle la figure de Esclava Anastasia dans le contexte esclavagiste brésilien. Donc, Esclava Anastasia, ça veut dire l'esclave Anastasia. Donc, Anastasia était forcée de porter un masque sur son visage, l'équivalent d'une muselière, que je ne montrerai pas. Le masque était un instrument répandu de torture et de discipline qui empêchait les sujets réduits en esclavage de manger les produits des plantations dans lesquelles ils travaillaient. Le masque servait également à museler la résistance à l'esclavage, en contrôlant et en distordant les voix. Par là même, cet instrument visait à sécuriser les oreilles des maîtres et des autres personnes qui n'étaient pas réduites en esclavage. Ces personnes n'avaient pas à entendre les vérités inconfortables exprimées par les esclaves. Le masque avait donc pour fonction de contenir et de distordre la vérité de la déshumanisation. Ce masque hante encore notre présent démocratique. Si je reprends à nouveau le récit de V, on peut dire que sa voix est dédoublée, elle a un peu une double voix. D'un côté, sa voix est joyeuse lorsqu'elle s'affiche pour promouvoir son institution. Donc sa voix est investie par des moyens audiovisuels et rendue joyeuse. D'un autre côté, lorsque V fait usage de sa voix propre et distincte pour dénoncer le racisme et le sexisme dans cette même institution, alors sa voix n'atteint pas les oreilles de celles et ceux qui exercent des responsabilités. Je suggère ainsi que les voix joyeuses des groupes minorisés qui peuplent massivement nos paysages visuels et sonores, qui s'affichent et se font entendre à répétition dans diverses campagnes de publicité, ces voix joyeuses sont les échos contemporains et néolibéraux de la muselière d'Anastasia Esclava. La voix joyeuse sert à distordre et contrôler la voix critique des personnes marquées par les différences raciales et genrées. C'est un peu pervers, parce qu'en fait, on utilise les voix des personnes contre leur propre voix. La voix joyeuse protège les oreilles d'un public majoritairement blanc, et pour le cas des universités, en tout cas en sciences politiques, majoritairement masculin. La voix joyeuse participe à produire et reproduire le son de l'inclusion, mais sans que les personnes qui sont mises au travail pour produire ce son, cette fréquence joyeuse, ne se sentent incluses. Donc la dépossession et la spectacularisation des corps et le contrôle et la distorsion des voix sont des logiques héritées du colonialisme et de l'esclavage qui sont encore opérantes aujourd'hui. Ce sont des logiques de domination raciale et genrée qui produisent ce que je propose d'appeler le cercle vicieux des yeux et des oreilles hégémoniques. Et donc je vais vous montrer le schéma que j'ai fait pour essayer de faire sens de ça, donc de ce cercle vicieux des yeux et des oreilles hégémoniques. Donc, sur ce schéma, on peut voir que les yeux, donc c'est les yeux hégémoniques, si les yeux hégémoniques sont investis dans le spectacle de corps minorisés qui sont souriants, alors ces yeux-là vont orienter leurs oreilles vers les voix confortables et donc distendues. Et par là même, ces oreilles vont se désorienter des voix distinctes et critiques. Donc c'est un cercle vicieux parce que ça continue. Lorsque les oreilles sont investies, aiment entendre des discours rassurants et confortables, alors elles vont à leur tour orienter les yeux vers des images qui sont plaisantes à consommer, celles de sujets non blancs qui sourient, et du coup ces oreilles et ces yeux vont se détourner de la présence réelle de ces sujets. Ainsi, d'après mon analyse, c'est la surexposition aux yeux et aux oreilles hégémoniques qui explique pourquoi la performance des candidats politiques afrodescendants de 2017 leur demande ont été négligée et oubliée. Les yeux hégémoniques ne pouvaient et ne voulaient pas voir ce groupe de personnes noires souriantes autrement qu'en tant que spectacle de la diversité. Les oreilles hégémoniques ne pouvaient et ne voulaient pas entendre l'urgence de leur voix critique, celle qui dénonçait le racisme en Suisse. La collectivité suisse n'était dès lors pas à même de se porter responsable et de répondre à ces voix noires. Alors, dans le scénario féministe noir de la démocratie que j'ai élaboré, il y a des yeux qui ne peuvent pas voir des corps autrement que comme des spectacles consommables. Il y a des oreilles qui ne peuvent entendre que les voix qui les rassurent. Dans ce même scénario, il y a des corps et des voix minorisés au croisement du genre et de la race qui travaillent de manière insoutenable. Ces corps et ces voix sont mis au travail de la production d'images et de sons d'inclusion joyeuse, sans jamais être réellement inclus. Ces corps et ces voix travaillent sans cesse pour se faire entendre, pour faire comprendre leurs critiques. Ils doivent tout le temps se répéter et leur demande, répéter leurs demandes, mais sans garantie que la collectivité les entende ou leur réponde. C'est ça que j'appelle l'inclusion insoutenable. Ce surplus de travail sonore et corporel amène souvent à de la confusion, à de l'épuisement et même à une forme d'assourdissement intérieur. Si on est attaché à l'idée d'égalité et de liberté démocratique, le scénario mis à jour par les pensées féministes noires n'est ni soutenable ni désirable. Il faut changer le scénario. Alors comment on fait ? Comment peut-on amplifier les voix ? Comment peut-on responsabiliser les collectivités démocratiques qui sont si habituées à ne voir que ce qu'elles ont envie de voir ? Je vais vous donner quelques pistes, mais j'espère qu'on pourra vraiment en discuter ensemble. Donc, une des pistes est suggérée par le troisième extrait que Vincent vous a lu, le troisième extrait tiré du livre d'Audrey Lorde, qui parle de l'usage de l'érotisme et de l'érotisme comme puissance. Donc, dans cet extrait, Audrey Lorde appelle ses consorts, femmes en général, mais toute personne opprimée, à cesser de vivre selon le regard et les contraintes extérieures. Elle nous appelle à puiser en nous et à mettre en place une relation érotique à notre corps. Donc l'idée, c'est de changer la relation qu'on peut avoir à notre corps pour cultiver nos voix. Donc ça, c'est une première piste. Comment faire pour ne plus être assourdi ? Travailler à la fois sur son corps et sur sa voix. C'est ce que Audrey Lorde appelle la puissance érotique. Et une autre piste que je trouve primordiale et qui est portée en ce moment par des mouvements sociaux, notamment des mouvements qui veulent décoloniser le savoir, décoloniser les universités, décoloniser nos espaces publics, Donc cette piste-là, c'est celle que je propose d'appeler la décolonisation des yeux et des oreilles hégémoniques. Une telle décolonisation passerait par une prise de conscience et une action collective vis-à-vis du passé colonial et racial qui résonne encore dans notre présent. Alors peut-être que décoloniser nos yeux et nos oreilles passerait par une lecture obligatoire, diffuse et systématique des écrits d'Audre Lorde et d'autres féministes noires. Une lecture vraiment approfondie, au-delà de l'ajout du nom, du simple ajout du nom des féministes noires dans les rues de nos villes. Voilà les pistes que je propose. J'espère de pouvoir discuter avec vous de ces pistes-là et d'autres encore. Voilà, merci beaucoup.
Échange là pendant à peu près un quart d'heure, et puis après je vous laisserai la parole pour si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, des positions peut-être un peu différentes. Moi j'entrerai dans la discussion peut-être un petit peu de biais, que j'espère pas trop, mais. J'ai repensé à un chapitre du très beau livre d'Étienne Tassin, qui s'appelle, son dernier, si je me souviens bien, avant son décès. Le livre s'appelle Le maléfice de la vie à plusieurs, parce que c'est une référence à Merleau-Ponty. Étienne Tassin utilise des figures de la mythologie grecque pour essayer de dire quelque chose à chacun de ces chapitres sur la situation contemporaine. Et il y a un chapitre tout à fait frappant sur une histoire tirée de la République de Platon, un certain Gigès pouvait devenir invisible. Il mettait un anneau au doigt et en tournant l'anneau, il devenait invisible. Et à partir de là, Étienne Tassin renvoie ça à la situation d'invisibilité. Il cite Ralph Ellison, donc le grand romancier afro-américain qui a précisément écrit un livre dans les années 50 qui s'appelle L'homme invisible, l'invisible étant Ellison lui-même. Et où l'invisibilité est le comble de la déchéance sociale. C'est la pire chose qui puisse arriver à un acteur social, d'être invisible. C'est précisément ça le fait devenir un non-acteur social. Mais en même temps, Étienne rajoute deux, trois choses intéressantes en disant, pour Gigès, c'est une marque de puissance de pouvoir devenir invisible. Parce que l'invisibilité, ça permet précisément d'agir sans qu'on le voit, ça permet de disparaître quand on le souhaite, etc. Et Étienne Tassin, qui est un très grand spécialiste d'Anna Arendt, finit sur sa démonstration en disant ce qui est important, ce n'est pas la visibilité ou l'invisibilité, c'est la maîtrise de la visibilité. Et quand on parle de visibilité, on parle aussi d'audition, évidemment, puisqu'être invisible, c'est être inaudible, etc. Et donc, je pense que la question absolument centrale, c'est la maîtrise de la visibilité ou de l'audibilité. Et on peut prendre toute une série d'exemples. Aujourd'hui, le gouvernement américain, particulièrement dans un gros procès en cours à Londres autour de Julian Assange, aimerait être inaudible. C'est-à-dire que le gouvernement américain aurait bien voulu que ses communications, les mails, etc., ne soient pas diffusées. Et c'était au contraire, bien sûr, un moyen d'exposer ces discussions, de les montrer, de braquer le projecteur sur ces questions-là. À l'inverse, on aimerait aussi, en tant que citoyen, citoyenne, parfois être à protéger de la vue d'autrui, de la vue du gouvernement. On a eu tout un débat l'année passée en Suisse sur les enquêteurs, pour l'aide sociale, c'est-à-dire est-ce qu'on peut nous mettre un détective dans notre jardin pour savoir si on est véritablement en train de crever de faim ou si quand même on ne travaille pas pour les voisins. Là, il y a une nécessité de pouvoir devenir invisible d'une certaine manière par rapport à la société. Donc ça me semble être peut-être un point de discussion. Comment est-ce qu'on peut maîtriser cet espace d'apparition, être capable de devenir, d'apparaître, mais aussi de disparaître, pas totalement à volonté, mais en tout cas de manière à peu près égalitaire. S'il y a bien une définition parmi beaucoup d'autres de la démocratie, ce serait l'égalité des capacités d'apparaître et de disparaître. On peut peut-être commencer avec ça.
Donc, je réagis à tes commentaires, à tes questions ou aux notions que tu, tu as soulevé. En fait, quand tu dis la maîtrise de l'espace d'apparition et la maîtrise de, sa visibilité, moi, ça me fait penser justement à ce que je disais sur l'histoire de la dépossession et de la spectacularisation du corps. Donc, déjà, une première chose, je pense que là où je me différencie de Tassin, mais pas forcément de Ellison, c'est que je pars vraiment... J'essaie de penser nos sociétés, la texture de nos relations sociales aujourd'hui, les relations entre nos corps, toujours informées par l'histoire de la race. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas faire comme si elle n'était pas là. Et du coup, l'histoire de la race, qui a tellement de poids et qui travaille encore aujourd'hui entre nos corps, moi je cite toujours Stuart Hall qui dit « La race transforme nos corps en texte. » Chaque fois qu'on se voit, on ne peut pas s'empêcher de se classer en fonction d'un code racial, mais aussi de se hiérarchiser, et c'est impossible d'y échapper. Donc du coup, ça déplace un peu cette question de la maîtrise de la visibilité qui serait un peu une condition pour tout le monde, comme si on partait tous du même point de départ. À partir du moment où nos corps sont informés par une longue histoire raciale et sont positionnés différemment au moment où on est déjà racialisé, on est déjà genré, à partir de là, en fait, il y aura des possibles... Enfin, si tu veux, je radicaliserai la condition que tu mets à l'égalité démocratique. Il ne s'agit pas juste de répartir de manière égale la maîtrise de l'espace d'apparition, qu'on pourrait tous décider d'apparaître et de disparaître. Il s'agit d'égaliser les conditions dans lesquelles les corps sont en relation. Tu vois, parce que quand on part depuis la perspective critique noire, les corps marqués comme différents, comme noirs, sont toujours dans une relation très fragile à leur corps, en fait. Les personnes qui ont ces corps, on ne peut pas se détacher de son corps, on sont dans une relation fragile à ces corps, parce que toujours surimposés par cette idée de la race. Donc, maîtriser la visibilité, ça serait un horizon, mais ne jamais oublier qu'il y a des asymétries sur les possibilités de maîtriser ces invisibilités. C'est pour ça que, on en parlait tout à l'heure avec l'association Talab, c'est pour ça que, les participants, on parlait de l'étrange et certains disaient, ça peut être très agréable parfois d'être anonyme. Et de manière assez intéressante, les personnes qui disaient c'est agréable d'être anonyme, souvent, c'était des personnes qui ne sont jamais anonymes parce qu'elles sont toujours hyper visibles, comme dans l'exemple de l'histoire de V. Toujours, toujours hyper visibles. Et du coup, tout d'un coup, d'être anonyme, c'est comprendre ce que les autres vivent au quotidien. En fait. Donc, il y a quand même un poids de la visibilité qui est différent.
On converge tout à fait. Mm-hmm. Bien sûr que... Je le donnais comme horizon.
Ouais.
Et peut-être aussi par rapport à l'expérience, l'expérience noire, tu sais que j'ai un peu travaillé sur Baldwin, mm-hmm. qui dit des choses qui sont très proches du même, même si c'est un peu bagarré avec André Lorde dans les années 80, où à la fois c'est l'homme invisible, c'est-à-dire qu'il n'apparaît pas dans la société, mais c'est l'homme hyper visible.
Ouais.
C'est-à-dire que lorsque vous êtes un homme noir aux États-Unis, vous êtes très visible aux yeux de la police, notamment.
Mmh.
C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous balader sans vous être arrêté.
États-Unis, Suisse.
Et ça se termine plus fréquemment mal aux États-Unis. Mais bon, effectivement, on va pas faire le concours de la police la plus raciste du monde, parce qu'en effet, la Suisse n'est sans doute pas la mieux placée là-dedans. Mais donc, il y a cette ambivalence-là, véritablement. C'est-à-dire ça, à la fois hypervisibilité, impossibilité d'être anonyme, en effet, comme tu l'as dit, et en même temps, la visibilité dans la société. Donc, c'est clair que c'est un élément à travailler. L'autre point, peut-être, sur lequel j'aurais voulu t'entendre, c'est une définition à la fois de la politique de la démocratie chez Rancière, qui est la Rancière, mm-hmm. oui, je l'avais un peu annoncé, et qui définit donc la politique comme la part des sans-part. C'est ce qui fait la politique, c'est pas décider d'une guerre, c'est pas de,
des livres, des gouvernants, etc. Mais c'est de déterminer la part des personnes, des individus, des collectifs qui sont précisément des sans-parts, qu'on considère comme extérieurs à la communauté politique. Et c'est toujours ce rejeu, le fait que ce rejeu en permanence, cette affaire des sans-parts, même dans la communauté apparemment la plus égalitaire, la plus libre, la plus tolérante, etc., c'est ce jeu-là qui fait qu'il y aura toujours de la politique. Donc, je parlais d'horizon tout à l'heure, c'est toujours un horizon, puisqu'il y aura toujours des sans-parts. Les femmes noires sont bien placées pour le savoir, puisque même à l'intérieur du mouvement des droits civiques, ils ont dû rappeler, bien sûr qu'on se bat ensemble, mais n'oubliez pas les femmes. Et de la même manière, dans les mouvements féministes, n'oubliez pas les femmes noires, puisque les problèmes qui se posent à nous ne sont pas tout à fait les mêmes.
Moi, j'aime bien... Il y a tout un ensemble d'auteurs qui ne sont pas spécifiquement féministes noires, qui sont en dialogue avec Rancière, que je mobilise pour réfléchir à la voix. Donc je suis assez sympathique à cette idée-là. Je pense que ce qui est important dans cette littérature-là, c'est ce qu'elle nous rappelle vraiment à quel point la voix. Notre voix, elle n'est jamais pure. On ne la possède pas complètement. Là, j'ai un micro. Donc, pour m'entendre, il y a une technologie qui médie le fait, enfin, qui est là pour médier ma voix. Donc, ça, c'est quelque chose que je trouve très important, la manière dont cette littérature-là pense la substance de la voix comme un peu toujours étrangère à elle-même. Donc, Rancière, il est important pour moi à cet endroit-là. Là où je pense avec cette littérature, je pense que cette littérature elle reste quand même avec une approche très étroite de ce qu'elle appelle à pouvoir avoir une part et devenir une voix audible ou une voix sensible, entrer dans la collectivité démocratique. Les approches critiques noires, elles nous montrent comment... Enfin, on a l'idée ici... De par nos traditions politiques assez libérales, de qu'est-ce qu'une bonne parole politique. On a quand même une idée que pour avoir une voix politique, pour être entendu, il ne faut pas crier, il faut être très rationnel, raisonnable, un peu comme ce qu'on est en train de faire. Si je me mettais à crier, vous me direz, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Donc il y a quand même une norme de la voix politique, de la parole politique, audible, et donc à laquelle on peut répondre. Et pour moi, cette tradition-là reste encore beaucoup dans cette idée de la parole. Vraiment la parole rationnelle. Rancière, il travaille sur les écrits des prolétaires. Il montre comment les prolétaires réclament l'idée de l'égalité. Et en réclamant l'idée d'égalité, s'institue en tant qu'égalité, en tant qu'égo. Mais du coup, la manière dont il réclame l'idée d'égalité, c'est comme si elle avait été déjà définie. Il y a une bonne manière de réclamer l'égalité. Moi, ce que j'aime dans les traditions féministes noires, les traditions critiques noires, c'est qu'elles ont une approche de la voix qui est un peu plus large et aussi un peu plus matérialisée. La voix, c'est aussi le son. C'est aussi, ça peut être un cri, ça peut être d'autres manières de se faire entendre. Par exemple, Audre Lorde, à la bibliothèque, quand elle dit ça tourne par rond, elle est en train de s'écouter, mais il n'y a pas de son qui sort de sa bouche, mais elle a une voix et elle l'écrit. Et moi, je l'entends par son écriture. Enfin, je trouve qu'il y a une approche un peu plus large, plus englobante. Plus ouverte de ce qu'est une voix dans les approches que j'utilise et qui sont aussi des approches qui sont beaucoup inspirées par la tradition de l'étude de la musique. Donc l'étude de la musique noire comme espace d'expression alternatif à l'espace classiquement politique, la musique noire qui ne passe pas forcément par des paroles. Donc voilà. Et aussi, je trouve que chez Rancière, il y a un manque de... Alors, il parle du sensible, donc il parle des émotions et du sensible, mais il ne parle, pour moi, pas assez des corps.
Je,
je serais d'accord sur le dernier point, un peu moins sur le premier, je trouve, le sévère et Francière. Quand il va faire ses études chez les ouvriers des années 1830, il ressort des poèmes, par exemple.
Oui, c'est vrai.
Et c'est quelque chose qui ne paraît pas du tout politique, mais là, il joue l'égalité parce qu'il considère qu'ils peuvent, comme les poètes bourgeois, faire de la poésie et tout à coup trouver du temps pour le faire. En revanche, c'est vrai que sur la question du corps, c'est sans doute un peu absent chez l'ancien.
Pour rebondir sur la poésie, dans l'autobiographie d'Audrey Lorde, qu'elle appelle une mythographie, donc c'est pas une autobiographie au sens classique, elle explique comment elle est devenue connue en écrivant de la poésie. Et une chose qui est intéressante, c'est qu'elle devait travailler à l'usine pendant la journée. C'est comme ça d'ailleurs qu'elle a été... c'est ça qui a causé ensuite ses cancers. Donc pour elle, la poésie, c'était le matin avant d'aller travailler, et c'était la forme d'expression la plus économe. Écrire de la... Et donc ça fait penser aussi aux ouvriers qui doivent aller à l'usine. Donc écrire de la poésie, c'est pouvoir donner de la voix d'une manière économe quand on est pris dans un circuit capitaliste du travail qui fait qu'on a peut-être moins de temps. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je veux insister. Enfin, les pensées féministes, elles pensent beaucoup au corps, elles pensent aussi beaucoup à ces corps qui sont mis au travail. Et qu'est-ce qui fait que quand on doit tout le temps travailler, on aura aussi moins le temps peut-être de cultiver sa voix politique. Et qu'en fait, les démocraties telles qu'elles sont aujourd'hui, telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui, notamment aussi en Suisse, demandent des professionnels qui du coup ont le temps en fait de cultiver leur voix. Enfin, cette inégalité aussi de pouvoir cultiver sa voix, de gagner les codes du bon discours politique, elle est aussi liée à des inégalités de conditions de travail, quoi, des inégalités matérielles. Et du coup, la poésie est un espace pour moi qui est éminemment politique.